Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal français des Vies de Calonne. L'armée soudanaise a arrêté la plupart des dirigeants civils. Cela arrive après des semaines de tensions entre militaires et civils qui se partageaient le pouvoir. Israël va construire 1355 nouveaux logements pour des colons juifs en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère israélien de la Construction. La résolution du Parlement européen sur la situation en Tunisie, l'institution appelle le président tunisien à rétablir les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple et à garantir l'état de droit. On ne peut pas laisser s'installer un pouvoir qui s'organise autour d'un seul homme, nous dira le député européen écologiste Mounir Satouri. Il est l'un des parlementaires à l'origine de cette résolution. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a vu son statut de résident révoqué lundi dernier par Israël. L'ancien directeur de l'Humanité et ancien député européen communiste Patrick Le Yarrick appelle ceux qui s'étaient mobilisés quand il était en détention à ne pas accepter cette décision. Vous entendrez Patrick Le Yarrick. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, extrait de votre édition. La Ligue arabe se dit ce matin préoccupée par les derniers développements au Soudan. L'armée a arrêté la plupart des dirigeants civils. Cela arrive après des semaines de tensions entre militaires et civils qui se partageaient le pouvoir. Des forces armées détiennent le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, arrêté après avoir refusé de soutenir un coup d'État, selon un communiqué du ministère de l'Information. Des soldats ont pris d'assaut le siège de la radio-télévision d'État. Le réseau Internet du Soudan a été coupé. Le ministère de l'Information soudanais a annoncé que les forces armées tiraient sur les manifestants refusant le coup d'état militaire à Khartoum. Le chef de la diplomatie européenne appelle aujourd'hui la communauté internationale à remettre la transition soudanaise sur les rails. Israël va construire 1355 nouveaux logements pour des colons juifs en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère de la Construction. La colonisation par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est annexée illégale au regard du droit international s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion de l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On ne peut pas laisser s'installer un pouvoir qui s'organise autour d'un seul homme. Des mots du député européen écologiste Mounir Satouri après le vote jeudi dernier d'une résolution du Parlement européen sur la situation en Tunisie. L'institution appelle le président tunisien à rétablir les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple et à garantir l'état de droit. Mounir Satouri, qui avec d'autres parlementaires est à l'origine de cette résolution, il évoque un geste de soutien au peuple tunisien. Entretien.
D'abord, la Tunisie est un pays pour lequel nous essayons d'avoir toutes les attentions, hein, notamment dans nos politiques de coopération, d'échange. Et nous savons depuis plusieurs années que la stabilité de la Tunisie est quelque chose qui est important pour la région. Il se trouve que le président Kais Saied détient actuellement tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, après avoir destitué le Premier ministre et après avoir suspendu le Parlement. Et aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est complètement, quasi totalement entre les mains d'un seul homme. En septembre, il a suspendu par décret présidentielle la constitution du pays. Cette situation était suffisamment alarmante pour qu'il puisse y avoir une interpellation, une réponse, après un débat avec le haut représentant d'une résolution du Parlement européen.
Quelle est la valeur de cette résolution qui a donc été adoptée par la grande majorité des députés européens?
Quand le Parlement européen vote cette résolution, qui appelle le président tunisien à rouvrir un processus démocratique pour la réélection du Parlement, c'est un signal politique fort, mais c'est aussi un aiguillon pour les autorités européennes, pour Joseph Borrell, qui a partagé le débat et partagé ses inquiétudes avec les députés, mais aussi pour les États membres. C'est un signal d'alarme fort qu'on exprime. La situation de la Tunisie doit préoccuper les partenaires internationaux. Et la démocratie, la séparation des pouvoirs doit être au cœur des relations avec le régime tunisien.
Vous estimez que c'est un geste d'amitié vis-à-vis de la Tunisie, la Tunisie qui a été présentée comme un pays exemplaire après sa révolution?
Ah mais c'est plus qu'un geste d'amitié, c'est un geste de soutien. Le processus de démocratisation en Tunisie doit se poursuivre. La situation sociale et économique doit s'améliorer. Nous appelons l'Union européenne à jouer pleinement son rôle, mais ça ne peut pas être en dehors de l'état de droit, ça ne peut pas être en dehors de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas possible qu'on laisse s'installer y compris en Tunisie, un pouvoir qui s'organise autour et pour et sur la volonté d'un seul homme.
Comment vous qualifiez aujourd'hui le système politique en Tunisie ?
Ce qu'on entend et qu'on voit depuis quelques semaines, et d'ailleurs les Tunisiennes et les Tunisiens manifestent dans les rues ces derniers jours pour soutenir et s'opposer aux décisions du président, ils craignent que les divisions politiques peuvent générer des violences et des affrontements. Nous, nous sommes en soutien des Tunisiennes et des Tunisiens et de la Tunisie.
C'est ce que vous répondriez à ceux qui vous accuseriez d'ingérence suite au vote de cette résolution.
C'est incroyable. À chaque fois que le Parlement européen prend ses résolutions sur ces questions internationales pour soutenir la démocratie, pour soutenir les combats légitimes pour la séparation des pouvoirs, le processus démocratique, c'est toujours les régimes autoritaires et les régimes pas démocratiques qui nous reprochent cette ingérence. Et par ailleurs, je sais que quand on prend des résolutions de ce type, dans le monde, au Maghreb, dans le monde arabe, en Égypte, ailleurs, les populations, les militants de droits de l'homme, les ONG prennent ce message comme un message politique. Et donc, que l'entourage du président nous accuse d'ingérence me fait comprendre que cette révision va dans le bon sens et qu'elle pointe là où ça fait mal.
Justement, jeudi dernier, le président tunisien a déclaré qu'il allait lancer un dialogue national sur la réforme de la loi électorale et du système politique. Il n'a pas donné plus de détails. Comment vous accueillez cela ?
J'attends justement de voir les détails. Il n'y a pas de discussion à avoir avec la pluralité politique, la séparation des pouvoirs. Après avoir suspendu tout contre-pouvoir ou tout autre pouvoir, y compris la Constitution, je pense qu'il va nous falloir beaucoup de gages et de garanties et que les forces vives tunisiennes s'expriment sur ce processus avant qu'on puisse lui donner le moindre crédit possible.
Et la nomination d'une femme, première ministre, une première dans l'histoire notamment de la Tunisie, est-ce un élément qui contribue à vous rassurer ?
Je vois l'habileté du symbole et le symbole Moza, sauf qu'il a nommé une femme première ministre, mais en réduisant extrêmement son pouvoir. Les pouvoirs les plus étendus sont toujours entre les mains du président qui continue à diriger techniquement lui-même l'administration. Et donc je comprends le signe et je vais vous dire à chaque fois c'est les mêmes signes qui nous sont envoyés. C'est celle sur les femmes et celle sur la suspension ou la sortie de la peine de mort. Mais on n'est pas dupes. On veut vraiment que la séparation des pouvoirs soit réelle, qu'il y ait des élections libres et démocratiques, que la pluralité politique soit respectée et que la Tunisie reprenne son chemin vers un processus de démocratisation réelle.
Et comment comprenez-vous la popularité des mesures prises par le président tunisien depuis le 25 juillet dernier et depuis la prise de ces mesures exceptionnelles, dont le gel du Parlement ?
Écoutez, on va voir ce que ça va produire sur la rue. Il y a déjà des contestations qu'on entend ici ou là. Et je vous ai dit, la Tunisie est un pays qui, depuis les révolutions arabes, suivez un processus positif, nous serons aux côtés des Tunisiennes et des Tunisiens pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles.
Et vous souhaitez aujourd'hui un dialogue entre l'Union européenne et l'État tunisien sur ces questions de liberté ?
Nous appelons à ce dialogue entre l'État tunisien et l'Union européenne et nous souhaitons que dans le cadre de différents programmes, l'Union européenne soit à tous les niveaux aux côtés des Tunisiennes et des Tunisiens. Pour l'aide au développement, évidemment, et la crise économique rajoutée à la crise sanitaire a provoqué une situation difficile. Et nous souhaitons également que l'Union européenne continue à soutenir la pluralité tunisienne, les ONG, les associations de droits de l'homme. Nous devons être aux côtés de la Tunisie à tous les niveaux.
Vous évoquez cette situation difficile vécue par la Tunisie, notamment l'été dernier, avec cette crise sanitaire mêlée à une crise politique et une crise économique. L'Union européenne a été à la hauteur suite à ces crises dans son aide apportée à la Tunisie ?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, ni vis-à-vis de la Tunisie, ni vis-à-vis d'autres pays. La crise sanitaire de la Covid a percuté l'Occident et les pays les plus développés, les plus riches. Beaucoup de choses ont été faites à l'échelle européenne pour accompagner les États membres à amortir le choc de ces crises. Moi, je trouve personnellement que nous n'avons pas été à la hauteur dans l'accompagnement de notre voisinage, que ce soit sur le plan de l'aide économique pour maintenir un tissu économique pour traverser cette crise sanitaire qui a été terrible pour ces pays-là, ou des soutiens en termes médicaux, de vaccins. Tout ça a pris beaucoup de retard et nous avons été vécus comme étant égoïstes dans cette crise. et il faut qu'on en tire les conséquences à l'avenir.
Le député européen écologiste Mounir Satouri. Plusieurs axes routiers ont été coupés dans différentes régions du Liban. Aujourd'hui, selon le centre de gestion du trafic, des protestataires, principalement des conducteurs de taxi, ont coupé la voie rapide dite du Ring à Beyrouth dans les deux sens. Le Liban qui est plongé dans une très grave crise socio-économique et financière et qui fait face à de multiples pénuries. Le premier ministre libanais est en déplacement en Irak. Najib Mikati effectue une visite officielle de quelques heures aujourd'hui dans le pays. Au menu de ce déplacement, un entretien avec son homologue irakien Mustafa Al-Kazimi. Plus de la moitié de la population afghane sera cet hiver en situation d'insécurité alimentaire aiguë, c'est ce qu'indiquent des agences des Nations Unies. Cet hiver, des millions d'Afghans seront contraints de choisir entre migrer ou mourir de faim, à moins que nous ne puissions intensifier notre aide pour sauver des vies, selon les mots du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial. Salah Amouri, l'avocat franco-palestinien, a vu son statut de résident révoqué lundi dernier par Israël. L'ancien directeur de l'Humanité et ancien député européen communiste, Patrick Le Yarrick, appelle ceux qui s'étaient mobilisés pour lui lorsqu'il était en détention à ne pas accepter cette décision. Patrick Le Yarrick.
Elle est totalement inadmissible. C'est que nous avons aujourd'hui en Israël un nouveau gouvernement qui poursuit exactement ce que faisait le précédent gouvernement qui était ultra-droite. Et donc, les principes fondamentaux, la colonisation, la construction du mur, les prisonniers politiques, c'est exactement les mêmes choix amplifiés qui sont faits. Et dans le cas de Salah Amouri, il faut bien comprendre que c'est un citoyen qui a la nationalité à la fois palestinienne et française. Et en plus, c'est un avocat, un défenseur des droits, et on veut, le gouvernement israélien veut s'en débarrasser. Donc, il conviendrait que d'une part, nos concitoyens se remobilisent pour défendre la possibilité pour Salah Amouri de résider à Jérusalem. On ne peut pas être, comme certains le proclament, pour le droit de circulation et le droit d'installation partout dans le monde, et qu'il y aurait un citoyen dans le monde qu'on exclurait de ses propres terres, de la maison de ses parents. Et la seconde chose, il faudrait que, s'agissant d'un franco-palestinien, il faudrait que le gouvernement français soit beaucoup plus net, beaucoup plus ferme avec le gouvernement israélien.
Comment expliquez-vous l'acharnement des autorités israéliennes sur la personne de Salah Amouri depuis des années ?
Ils ont une difficulté, c'est-à-dire qu'à la différence d'autres amis palestiniens, du fait qu'il a cette double nationalité, et du fait qu'il y a eu des mouvements populaires de soutien assez importants dans notre pays, et aussi du fait que le Quai d'Orsay, le gouvernement français, a continué, même quand Salah Amouri était emprisonné, à aller le voir et le soutenir, les autorités israéliennes ne peuvent pas lui réserver le sort des prisonniers politiques palestiniens, et donc on préfère s'en débarrasser, le faire quitter le territoire, parce qu'ils savent bien que le réemprisonnerait déclenchera une campagne de masse pour le sortir de prison. Mais nous devons, je crois, faire la même campagne pour empêcher qu'il soit expulsé de Jérusalem et qu'il puisse exercer son métier à Jérusalem et celui de défenseur des droits humains, des droits des Palestiniens.
L'ancien directeur de l'Humanité, ancien député européen, Patrick Le Yarrick répondait à Loïc Barrière. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il estime que le sujet numéro un des électeurs en Seine-Saint-Denis est la question sociale. Extrait.
C'est principalement la première préoccupation des habitants de Seine-Saint-Denis. On a une situation de chômage qui est extrêmement importante, une situation de paupérisation de la population qui est aussi plus en plus importante. La crise sanitaire qui est encore devant nous n'a pas fini encore d'avoir des conséquences dramatiques sur ces populations. C'est la raison pour laquelle il y a nécessité d'avoir des propositions extrêmement fortes qui visent bien sûr d'abord à protéger les populations. Et donc on a la première proposition d'ailleurs qui est en plein dans la situation actuelle que nous vivons, c'est monter les prix de l'énergie, où nous proposons directement le blocage purement et simplement en fin de compte de l'impact en fin de compte de cette hausse, ce qui est un élément à la fois de préservation du pouvoir d'achat des gens les plus fragiles, et ce qui permet aussi de pouvoir soutenir toutes ces populations qui aujourd'hui ont une véritable difficulté. Mais c'est aussi l'avènement que nous portons depuis maintenant plusieurs années, la nécessité d'avoir un SMIC minimum à 1 400 € net pour justement donner un coup de pouce majeur à la fois au pouvoir d'achat des populations. Et puis c'est un grand plan sur la question de l'emploi et qui sera permis par la question de prendre en considération les nouvelles technologies, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui les énergies renouvelables qui sont véritablement des vrais moyens de pouvoir produire en fin de compte de l'emploi. Et c'est aussi dans ce chemin-là que nous allons pouvoir aussi apporter des réponses concrètes. Puis après, on a de manière assez importante la nécessité d'apporter des réponses concrètes au quotidien des gens, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat, mais c'est aussi le logement. Comment on fait dans des territoires où les choix qui ont été faits dans le passé visaient à réduire la place du logement social, par exemple, comment on contrarie ça? Nous proposons bien sûr la production importante de logements sociaux et diversifier aussi pour permettre à ce que les populations puissent pouvoir aussi vivre dignement sur nos territoires.
Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il sera l'invité de Pluriel à 19h et 23h, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe vous sera présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour votre journal. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Très bon début d'après-midi, bientôt 12h17.